CEF pour les adolescents, avec nos trois invités que je vais donc vous présenter. Nous avons ici Corinne Guiteau, qui pour l'instant a essentiellement écrit de la littérature pour adultes, mais qui prépare actuellement un livre pour la jeunesse. Fabrice Collin, qu'on ne présente pratiquement plus, qui a écrit, lui, alors à peu près à tous les niveaux, hein, puisque si ma mémoire est bonne, je me souviens même avoir lu un écrit de toi qui devait être publié chez le Père Castor, si ma mémoire est bonne. Donc tu as vraiment écrit pour les enfants, pour les adultes, pour les adolescents, vraiment à tous les niveaux. Et nous avons ici Loïc Le Borgne. Donc Loïc qui a écrit pour les, on va dire, jeunes ados, hein, avec la collection Autre Monde, et qui écrit maintenant pour les grands ados, jeunes adultes, avec la collection 15-20. Donc là aussi, une pratique d'écriture très différente, hein, chez mes trois invités, puisqu'ils ont écrit ou ils sont en train d'écrire, à la fois pour des adultes ou des jeunes adultes, et pour des adolescents. Donc on va pouvoir leur demander un petit peu si ces deux types de pratiques littéraires diffèrent, et puis pourquoi aujourd'hui, hein, ce sera ma première question, quand on va dans une librairie ou quand on va dans une bibliothèque, on a franchement l'impression de voir depuis 10 ans à peu près se multiplier les collections pour adolescents, pour grands adolescents, et voir une offre éditoriale qui est bien supérieure à ce qu'on pouvait trouver quand moi, par exemple, je pouvais être ado et que je cherchais des livres de science-fiction. Donc ma première question sera celle-ci. Est-ce qu'il y a vraiment eu une nouvelle offre éditoriale? Est-ce qu'il y a vraiment plus de littérature pour adolescents aujourd'hui? Ou est-ce que c'est simplement qu'elle se montre plus, qu'elle est mieux identifiée et qu'on n'hésite plus aujourd'hui à dire qu'on écrit pour les adolescents? Fabrice?
Non, je crois que c'est un marché, en fait. C'est une question, c'est un petit peu une question bêtement commerciale, un peu prosaïque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un marché qui s'est créé. À mon sens, enfin voilà, avant, on passait de la Comtesse de Ségur à Balzac et c'était pas toujours évident. Il y a maintenant des livres qui sont vraiment spécifiquement destinés à un public jeunesse, adolescent. Alors c'est très compliqué de déterminer la spécificité de ces livres-là parce que, et on l'a vu avec Harry Potter et Les Royaumes du Nord, etc., ce sont des livres qui sont aussi lus par les adultes. Il y a le concept de ce qu'on appelle aux États-Unis les young adults, qui complexifie encore un petit peu le tableau. C'est-à-dire qu'on écrit des choses pour les... Alors, il y a les 12-13 ans, mais après, il y a les 15-17 ans. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà adultes? Il y a aussi des adultes qui lisent de la littérature jeunesse. Il y a des romans de fantasy publiés dans les collections adultes qui sont repris en poche en jeunesse. Moi j'ai un roman jeunesse qui est repris en poche en adulte, donc on est vraiment à une espèce de frontière, mais en revanche oui c'est un vrai marché, il y a une vraie éclosion, il y a aujourd'hui des livres et des ventes qui sont sans commune mesure avec ce qu'on peut voir en science-fiction adulte aujourd'hui en France, c'est-à-dire que des séries comme Les Chevaliers d'Emeraude ou Tara Duncan ou les romans de Pierre Bottero sont des choses qui se vendent à 50-100 000 exemplaires. Vous n'avez aucune chance d'atteindre ces chiffres-là quand vous êtes un auteur français en science-fiction.
C'est plutôt du 10 000 la moyenne, je crois, en littérature adulte et encore pour un livre qui marche bien. Hein.
Ouais.
Alors, à mon sens, c'est vraiment la littérature ado qui est une nouveauté. Parce que je me souviens, quand j'étais jeune, ça fait déjà pas mal de temps, en littérature pour enfants, on avait déjà des gens comme Philippe Eblis, des gens comme Christian Grenier qui écrivaient déjà. Donc c'est vraiment la littérature adolescente hein, qui semble être une nouveauté, Loïc.
Oui, c'est vrai qu'on aurait aimé trouver toutes les collections qu'on a aujourd'hui. Et en réalité, on piochait à la fois chez les adultes et puis chez des auteurs comme Eblis. Mais on peut se demander qu'est-ce qui, à l'époque, serait sorti en collection ado aussi. Est-ce que Jules Verne, par exemple, ne serait pas sorti en Young Adults
Jules Verne probable, était dans une... Voilà, il était dans une, édition déjà qui était à destination de la jeunesse hein, quand il a publié.
Donc l'avantage aujourd'hui, c'est vrai que c'est récent, c'est que ça permet aux jeunes lecteurs de trouver tout de suite ce qu'ils recherchent. C'était peut-être un peu plus compliqué, il fallait fouiner un peu plus autrefois. Quand ce que disait Fabrice aussi, c'est vrai qu'il y a même un petit flou en fonction des éditeurs, hein, puisque moi aussi j'ai un bouquin qui est sorti en 15-20, Je suis ta nuit, qui va être repris par le livre de poche, mais en adulte. Donc y a vraiment des frontières qui sont assez floues. Néanmoins, il y a quand même, des manières d'écrire et des thématiques qui sont peut-être un petit peu particulières en fonction du public, ça. En tout cas, qu'on a dans la tête au moment où on l'écrit. Je pense que, au moins de manière implicite, ça joue sur ce qu'on peut écrire. Je parle de ça parce que Je suis ta nuit, je l'ai écrit sans avoir de lecteur type en tête. Hein, c'était même plutôt peut-être un adulte, alors que Le sang des lions qui vient de sortir, j'avais vraiment ce young adult dans la tête. Donc je sais que je n'ai pas tout à fait traité les choses de la même manière.
Alors Corinne, quand tu étais ado, ça ne fait pas si longtemps pour toi par contre. si. Qu'est-ce que tu piochais justement, puisqu'il n'y avait pas toute cette offre qu'on trouve aujourd'hui ?
Moi, j'ai fait à peu près le même parcours que toi. Je suis passée de la comtesse de Ségur à Balzac, parce que j'étais très classique dans mes choix. Et moi, j'avais les castors poches pour alimenter ce qui n'était pas littérature classique. Heureusement, j'ai pu en sortir. Et puis après, je suis rapidement passée à la littérature dite adulte, parce que ça, il n'y avait pas d'offre proprement dite quand j'étais, ce qui fait 20 ans, quand même. Hein.
Quand même.
Ce qui fait que c'est vrai qu'il y a, de toute façon, avant Harry Potter, et après, où moi j'ai vu arriver, y compris dans les CDI, puisque je suis enseignante, les CDI d'ailleurs ont du mal à rattraper la vitesse à laquelle ça va, oui. des romans jeunesse, et ils sont très 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 en retard, et j'ai eu la demande de ma documentaliste qui m'a dit, tu vas à un festival de SF, ramène-moi des références, parce qu'on est à la masse. Mmh. Ils sont plus en avance en BD qu'en littérature jeunesse, tellement ça va vite. Et elle a dit, je ne pourrais jamais remplir le rayon que je voudrais, avec, si je voulais suivre au même rythme. Et elle s'en désolait, et donc elle m'a demandé d'essayer de lui trouver des pistes. C'est vrai que même moi, je passe allègrement de mes lectures. Alors quand j'ai des élèves, quand je suis en vacances, je vais aller prendre des romans adultes. Et quand je suis en cours, pour que ce soit plus simple pour moi, entre deux cours par exemple, ou le matin, je vais lire des romans jeunesse. Donc moi, je passe de l'un à l'autre allègrement.
Alors Fabrice, tu disais tout à l'heure que c'était simplement un marché. Est-ce qu'on a pris conscience que ce marché existait, ou bien est-ce que c'est soit les adolescents, soit la SF qui a changé et qui du coup a créé un nouveau marché ?
C'est l'histoire de la poule et l'œuf, quoi. C'est un peu difficile à déterminer. Ce qui est vrai, c'est que quand les acteurs de l'édition identifient une tendance qui commence à se développer, bah, ils s'engouffrent tous dedans. Aujourd'hui, on voit que la science-fiction et la fantasy sont devenues... la thématique principale. Enfin, en littérature jeunesse aujourd'hui, quand vous allez sur une table, c'est vrai que c'est quand même pas mal trusté par ce genre de livres-là. Il y a des questions, j'en reviens, désolé, c'est bêtement économique, mais c'est vrai que même pour les auteurs, parfois, les auteurs qui écrivent pour les adultes se rendent compte qu'ils peuvent faire quasiment la même chose pour la jeunesse et qu'ils vont multiplier leurs ventes. Pas toujours, hein, les places deviennent chères aussi, mais... voilà, enfin, on est dans le sillage aussi de ce qui se fait dans la littérature anglo-saxonne. Corinne avait raison de signaler qu'il y a eu un avant et un après Harry Potter, notamment pour les écrivains en termes de ce qu'il est possible de présenter. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit récemment des romans de 650 pages. Je veux dire, je pense qu'il n'en aurait pas été question avant ça. Puis on s'est rendu compte, voilà, que notamment la fantaisie, la science-fiction, je sais que c'est le sujet, non, mais on va dire les littératures de l'imaginaire, c'est vrai que la fantaisie a vraiment le vent en poupe et a vraiment les faveurs des lecteurs. Pour la science-fiction, c'est un peu plus compliqué. Ça se passe pas exactement pareil. Bon, la collection qui a été lancée par Denis Guyot, Autre Monde, dans laquelle on a écrit Loïc et moi... c'est une collection qui marche très bien au niveau pédagogique aussi, et ça aussi c'est nouveau, c'est-à-dire que ces livres font leur entrée dans les collèges et dans les lycées. Les professeurs s'aperçoivent que c'est quand même plus facile de faire lire ça à 12-13 ans que du Zola ou du Flaubert. Moi je dis pas du tout qu'il faut pas que les enfants lisent du Zola ou du Flaubert, mais il y a un moment où ils peuvent être pas en échec, le mot est peut-être fort, mais il y a un problème avec la lecture, qui n'est clairement pas le hobby plus populaire. Et puis même si ça l'était, de toute façon, c'est la honte de le dire. Donc, voilà.
Ça touche aussi pas forcément les mêmes lecteurs.
Oui, tout à fait.
Il y a des lecteurs qui vont, par exemple, être attirés par par les vaisseaux spatiaux et qui n'auraient pas du tout été attirés par des livres plus classiques. Et du coup, ça permet, ça fait plaisir aussi quand on va dans des collèges et qu'on voit des jeunes qui n'avaient pas ouvert un bouquin. Et puis là, ils ont vu un truc avec des vaisseaux spatiaux, ou je ne sais pas où, des baleines ou dans l'espace. Et du coup, bah, ils se sont jetés dessus. Ils ont lu un livre au moins déjà. Avec plaisir.
Moi, c'est, on parlait de la collection Autre Monde, elle fonctionne vraiment très bien avec mes élèves de lycée professionnel.
En lycée général aussi, moi je suis prof en lycée général, c'est pareil.
Mes secondes BEP, ils n'y coupent pas. Hein. La première séquence qui commence l'année, ça va être des débuts de romans jeunesse, plusieurs que j'ai choisis. Et après, je vais leur demander, puisqu'on a quand même un fonds Autre Monde au CDI, merci, je leur demande d'aller après me chercher d'autres romans et de me dire, même s'ils ne l'ont pas ouvert, aller chercher et puis me dire pourquoi celui-là et pourquoi pas un autre. Et c'est vrai que les couvertures, moi je me souviens aussi des couvertures sur Castor Poche qui n'étaient pas toujours très transcendantes. Et là, le gros effort qui a été fait au niveau des illustrations fait que, comme on a des élèves qui sont très visuels, ils vont tilter sur l'image avant d'aller vers le texte.
Alors ça, justement, s'ils sont très visuels, est-ce que ce n'est pas aussi cette attirance pour cette littérature de science-fiction que, à la télé, les dessins animés, les choses comme ça, leur présentent cet univers-là presque de manière continue?
Moi, il me faut une allergie. Dès que je leur dis « on va faire de la science-fiction cette année », »,« oh non, Star Wars ». Avant, ce n'était pas ça. Maintenant, ça fait plusieurs classes que j'ai qui me disent « oh non, Star Wars ». Non, mais il n'y a pas que Star Wars. Heureusement, il y a autre chose. Donc, je suis obligée de prendre dans le sens inverse. Je ne peux pas partir de... Apparemment, ils détestent. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Et ils ne comprennent rien. Donc je suis obligée de leur expliquer un peu. Alors je pars de Star Wars où j'ai pas le choix, c'est celui qu'ils connaissent, et puis j'essaye de les amener à autre chose. Mais justement, ils sont pas aussi attirés. Je me demande même si maintenant la télévision, ils la regardent autant que ça en émission, etc. Puisqu'ils sont très... ça va durer 5 minutes, oui. Ça va durer 10 minutes, et puis ils vont passer sur autre chose. La musique fonctionne mieux que la télé maintenant.
Alors, je précise un peu ma question pour la science-fiction, puisque là, on parle science-fiction-fantasy un peu mélangé. Mireille Rivaland nous disait hier, devant les bibliothécaires en journée professionnelle, qu'il y a peut-être quelque chose qui avait changé aussi dans la science-fiction. C'est que la science-fiction est moins dans des avenirs très lointains et que les auteurs écrivent plus pour des avenirs relativement proches, hein, 10, 20 ans, c'est-à-dire des préoccupations qui vont toucher les jeunes d'aujourd'hui parce que ça va concerner leur vie future. Est-ce que vous le ressentez, ça, Loïc, peut-être ?
Oui, c'est vrai que moi j'ai écrit un petit peu le deux types d'histoires, hein, puisque Le Sang des Lions, ça se passe dans quelques décennies, et Marine des Étoiles se passe dans un très long, lointain futur. Je crois qu'il y a une explication aussi à ça par rapport aux auteurs, c'est qu'on a aujourd'hui bien du mal à savoir ce qui peut se passer en fonction des événements climatiques, etc. Il y a un petit peu une sorte de barrière. Alors après, on peut toujours imaginer... prendre la science-fiction comme une fable, mais si on veut vraiment creuser, on a quelques difficultés à franchir plusieurs siècles. C'est-à-dire qu'on pensait avant que tout allait tout le temps progresser, que les voitures se mettraient à voler, etc., etc. Et puis on s'est rendu compte que bon, il y aura peut-être des problèmes quand même.
C'est la fameuse singularité dont parlait Werner Winch. Il arrive à un point où on peut pas dire ce qu'il va y avoir après, et justement, on a l'impression que les auteurs aujourd'hui sont plus concentrés sur le avant.
Les lecteurs aussi, donc forcément, qui se retrouvent aussi avec cette singularité devant eux.
Fabrice,
ce qu'on appelle le space opéra notamment, c'est-à-dire les grandes fresques où les personnages partent dans l'espace à la découverte de systèmes stellaires, de planètes, etc. Je pense que ce rôle-là aujourd'hui, parce que c'est des histoires qui racontent quoi finalement, c'est des histoires d'aventure, c'est des histoires bon, qui peuvent mettre en valeur les qualités humaines des personnages, ça va être des quêtes, ça va être les découvertes d'autres races, d'autres
c'est
mondes.
La fantaisie, maintenant.
Bon, voilà, c'est un peu pris par la fantaisie. Je veux dire, on peut raconter les mêmes histoires en fantasy. Et d'ailleurs, bon, le cas Star Wars est un petit peu emblématique parce qu'on finalement on ne sait pas trop si c'est de la fantasy ou de la science-fiction. C'est-à-dire, ça a les atours de la science-fiction, mais ça respecte tous les codes de la fantasy. Et on vous dit d'ailleurs au début de la première trilogie, il y a très longtemps dans une galaxie très lointaine. Donc bon, c'est clairement Star Wars revendique un héritage mythologique qui fait que en fait, moi, la façon dont je le présente aux collégiens, pour ceux qui connaissent. C'est que c'est de la fantaisie déguisée en science-fiction. Et effectivement, la science-fiction parle en fait d'aujourd'hui en parlant de demain, en évoquant demain, mais un demain qui est assez proche. Et on ne fait que extrapoler sur des problématiques qui existent déjà aujourd'hui. Donc, je sais pas, le clonage, la pollution, toutes ces choses-là. Ça existe déjà aujourd'hui. Et donc, c'est sympa pour les profs, notamment, et pas seulement les profs de français, d'ailleurs. Ces livres-là, c'est du, c'est du tout cuit pour eux. À étudier en classe, ça leur permet de parler de, je sais pas, de sciences, d'histoire, bon, de littérature aussi,
de
mais
philosophie, de philo.
Voilà, ça permet d'aborder plein de choses. Donc il y a vraiment un côté pédagogique qui fonctionne bien.
Et Corinne, dans tes élèves, tu dois le voir aussi, cette préoccupation, elle est chez les jeunes, cette préoccupation pour l'avenir.
Moi, mes élèves ne se voient pas aller au-delà de l'âge de 30 ans. Oui. Quand je leur demande, qu'est-ce que vous comptez faire dans 10 ? Alors, 10 ans, ça va encore. 20 ans, je les perds. Donc eux, ils sont persuadés que de toute façon, ils vont mourir à 30 ans. Quand on a ce genre de conversation, on s'inquiète quand même. J'ai dit oui, j'en ai 30.
C'est vrai que c'est très fréquent.
Oui. Donc eux, ils sont persuadés que de toute façon, tout va mal. Donc ils veulent en profiter maintenant. Dans tous les excès d'ailleurs possibles et imaginables, et malheureusement nous en lycée professionnel, je ne sais pas si c'est le cas au lycée général, mais on voit de plus en plus des élèves qui vont vers les drogues, etc., et l'alcool, et eux de toute
l'alcool
façon c'est,
surtout chez nous.
C'est maintenant, c'est tout de suite, donc c'est vrai que pour les intéresser, il va falloir les vaisseaux spatiaux, c'est trop loin, les autres planètes déjà, pourquoi aller ailleurs, ça ne les intéresse pas. Et quand je leur parle du système solaire déjà, que je leur fais découvrir qu'il y a d'autres planètes, c'est de plus en plus inquiétant ça. Bon, la Lune ça va, Mars, Jupiter ça commence à se compliquer, Saturne et tout ça là-bas c'est même pas la peine, c'est trop loin.
Et les exoplanètes n'en parlons pas.
Non, j'ai renoncé à parler de ça. Donc eux, c'est donc toute la littérature que moi je choisis quand j'étudie la science-fiction avec eux, ça va être sur la Terre, dans un avenir effectivement proche, c'est ça qui va les intéresser davantage. La pollution ça va tilter, le clonage ça va tilter parce qu'ils entendent parler. Les nouvelles technologies et leurs dérives, ça va tilter aussi, parce qu'ils sont grands demandeurs de nouvelles technologies. Donc
oui, puis en fait, l'histoire a beau se dérouler dans le futur, on parle bien du présent,
de
en réalité,
oui.
De ce qui aujourd'hui donnera les problèmes futurs.
Oui, c'est ça. C'est ce qui les intéresse, eux, c'est de savoir, dans 10 ans, on est où ? Est-ce que, donc, ils se voient morts, eux ? Comme on leur annonce tous les matins, alors j'en ai régulièrement un qui arrive, qui me dit « Madame, c'est la fin du monde ».
Encore.
Ils ont trouvé, je ne sais plus, c'était l'accélérateur de particules.
Ah oui, avec le boson de Higgs qui va créer un trou noir et détruire l'univers.
Alors ça, il faut que je rassure un élève, ça m'a pris une heure quand même pour expliquer. Alors je suis prof de français à la base, il faut que j'explique des trucs de science. Merci la science-fiction qui me force à me renseigner. Je m'abonne à des revues aussi scientifiques pour être capable de... Moi, de toute façon, je suis prof de français, de biologie. Je dois leur apprendre pourquoi le ciel est bleu, pourquoi la Terre n'est pas plate. Je suis prof de sciences, alors j'essaie quand même de ne pas dire trop de bêtises, donc je me renseigne un peu, mais c'est vrai que tous les lundis matins, il y en a au moins un qui va me dire « c'est la fin du monde ». Les camarades commencent à rigoler, là, quand même.
Loïc, je suppose que tu es passé dans des collèges, dans des lycées, pour parler de ton bouquin, notamment « Marine des étoiles ». Est-ce que ce bouquin qui se projette là, loin dans le futur, cette fois, tu trouves ce désintérêt un peu dont parlait Corinne pour les perspectives lointaines ?
Oui, il est clair qu'en réalité, ce qui intéresse avant tout, je crois, le lecteur, c'est le personnage. Hein, c'est comment on va évoluer. On me ramène toujours au personnage. Celui-là, il est drôle. Celui-là, il est amusant, il est pittoresque, il est bizarre physiquement. Donc c'est les personnages et l'histoire qui va leur arriver. Mais c'est vrai que moi j'ai pris un petit peu un prétexte, hein, ce futur là, ça aurait pu se passer au temps des pirates, puisque c'est des histoires de pirates en réalité, hein.
C'est l'aventure dont parlait Fabrice.
Voilà, c'est l'aventure en fait. Ça c'est des thèmes qui resteront, je crois, toujours, qui capteront toujours l'intérêt des jeunes. J'ai pas pris la science-fiction comme une prévision dans ce cas-là, c'est un cadre en fait, hein, j'ai simplement appliqué effectivement l'époque des grandes découvertes au futur, mais on retrouve vraiment toutes les thématiques, tous les vaisseaux qui partent, qui pourraient être des bateaux. Donc en réalité, les jeunes me parlent peu de l'avenir. Quand je discute de Marine des Étoiles, ils me parlent des personnages, de ce qui leur arrive, de leur évolution.
Et donc Fabrice et Corinne, quand vous passez, je suppose que vous le faites aussi, dans des établissements pour faire un petit peu la présentation de vos livres, est-ce que vous voyez une différence comme ça entre certaines histoires où ce sont les personnages, les quêtes, les aventures qui intéressent les élèves, et des livres où c'est plutôt justement la problématique, où c'est plutôt la question posée qui va les attirer ?
Moi, je trouve que les questions posées les intéressent pas vraiment jusqu'au moment où leur professeur leur dit « Ah, de quoi parle l'auteur ici ?» Voilà, réfléchissons autour de ça. Je pense que je suis plutôt d'accord avec Loïc. C'est les intrigues, c'est les personnages, c'est la progression dramatique. La science-fiction, en plus, ça les invite à réfléchir sur un avenir qui pourrait être le nôtre. Donc, si on se place un peu dans une perspective initiatique, en gros, c'est bah, qu'est-ce qui va nous arriver dans 10 ou 15 ou 20 ans. Donc, comme le soulignait Corinne, c'est un peu flippant, quoi. Et c'est pas forcément... Enfin, moi, j'y vois je vois la prédominance de la fantasy sur la SF, c'est ça, c'est que si on se place dans quelque chose d'initiatique comme ça, la fantasy, on imagine, c'est souvent des récits initiatiques aussi, c'est des récits où quand même les choses se passent plutôt bien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des quêtes, il y a des méchants, c'est manichéen, voilà, il y a un bouleversement, il y a du chaos, etc., mais on va combattre ça. La SF, ça peut être un peu plus inquiétant, voire beaucoup plus. Mais je pense que c'est bien aussi de les bousculer là-dessus. Moi, le prochain roman qui sort chez Mango...
C'est vrai que le côté rassurant de la fantaisie, c'est assez facile de se réfugier là. Oui, ça donne envie, c'est vrai, de bousculer un petit peu, de dire ouais. Le monde n'est pas comme ça non plus.
Moi, je sors un bouquin en janvier qui s'appelle La fin du monde. On en parle.
Donc, à conseiller à tes élèves, Corinne.
Bon, qui décrit une fin du monde comme ça. Et c'est vrai que l'éditeur était un peu... pas la directrice de collection, mais l'éditeur lui-même. Enfin, c'est la personne qui va donner les sous. C'est un peu, mais vous êtes sûr? Parce que quand même, bon... Et puis en même temps, voilà, ça peut être une occasion de réfléchir là-dessus. Mais c'est vrai que bon, pour moi, j'ai toujours considéré que la science-fiction était plus une littérature de concepts et d'idées, et peut-être la fantasy plus une littérature de personnages, de destinées, etc. C'est une vue un peu schématique et réductrice, mais le fait est que la SF, moi j'ai l'impression que ça marche parce que surtout ça donne quelque chose aux enseignants, et ça veut pas dire qu'une fois que les élèves s'y sont intéressés, ça peut marcher, mais il faut qu'ils fassent l'effort. Il y a déjà la terminologie science-fiction, voilà, ça fait un peu peur, et c'est quelque chose de moins naturel et peut-être plus anxiogène que la fantasy, qui finalement rejoint un peu le conte de fées. Et comme tu le disais, c'est vraiment comment rétablir un ordre qui a été dispersé comme ça.
Du coup, cette littérature de science-fiction que nous voyons, nous adultes, comme pédagogique, instructive, spéculative, etc., il faut faire l'effort pédagogique à côté. Elle n'est pas d'emblée instructive.
Non, moi, je suis intervenue dans un lycée à Amiens sur une de mes nouvelles qui est parue chez Éon. Et l'enseignant avait fait tout un travail au départ
en amont
pour mon intervention. Mais il avait 3 classes. Et comme il avait un auteur sous la main, et ben, il en a profité. Donc j'ai eu la classe qui avait travaillé sur la nouvelle, qui m'a posé les questions les plus percutantes. La classe qui avait lu la nouvelle l'heure d'avant. Et je suis arrivée et qu'ils m'ont posé plein de questions, mais c'était plutôt sur combien je gagne et combien d'exemplaires. Ça, c'est toujours la question qui revient. Et une autre classe qui n'avait lu que la 4e de couverture de J'aime. Et donc, on avait fait un travail sur le vocabulaire que j'utilisais. J'aime, génétiquement modifié, qu'est-ce que ça vous apporte, etc. Donc, c'est vrai que s'il n'y a pas le travail, les clés que vont apporter les enseignants aussi, peut-être que grâce à ces clés, les élèves, après, vont aller vers cette littérature, alors qu'ils vont plus volontiers, c'est vrai, vers la fantaisie. Si je leur parle fantaisie, là, les Eragon et compagnie, c'est bon, ça revient tout de suite. Si je leur parle science-fiction, non. Rien du tout, c'est un blanc.
Loïc, sur cette même question de l'effort pédagogique à faire à côté, en amont, en aval.
Oui, je pense qu'il y a un effort pédagogique, mais je reviens à l'histoire des personnages. Si le personnage, si l'intrigue pousse le lecteur à aller de l'avant, il va aussi et à s'accaparer, y compris sentimentalement, le récit, il va aussi, je pense, fouiner un petit peu par lui-même. Et c'est vrai que dans la fantaisie, on a une leçon à tirer, c'est justement, hein, c'est que ces personnages sont très forts, ces aventures entraînent le lecteur, il devient presque un des personnages de l'aventure. Ce qui a pu manquer peut-être en science-fiction aussi, hein, où si on prend un thème en se disant voilà, on va leur parler de ça,
oui, bah,
mais sans personnage, bon, oui. Bah, c'est un petit peu...
C'est vrai qu'on ne va pas faire lire de la hard science aux ados, hein, c'est assez clair. Alors, si on parle maintenant du travail de l'écriture, donc je vais me tourner d'abord vers Fabrice, qui a écrit vraiment à tous les niveaux de l'échelle d'âge, enfin peut-être pas pour les seniors, mais tout juste. Est-ce que tu écris différemment quand tu écris pour un enfant, un adulte, un adolescent, et quelle est la spécificité de ton écriture pour adolescent?
C'est peut-être plus en... Alors,
le fond et la forme.
Ouais, alors bon, le fond, il y a des thématiques qu'on aborde, enfin voilà, il y a des sujets qu'on évite. On sait très bien que, notamment, il y a un gros truc autour de la sexualité. De toute façon, quand on en parle à des élèves de 4e ou 3e, on voit bien qu'il y a le problème, enfin, ils rigolent tous. Bon. Ça n'a pas d'intérêt. Moi, je peux me servir du sexe vraiment en littérature adulte pour dire quelque chose. Bon, ça, c'est quelque chose qui n'est pas accessible, je pense, au public de 13-14 ans. Alors, ça ne veut pas dire que les personnages ne couchent pas. Hein. Ils le font, mais généralement, c'est non dit ou c'est vraiment suggéré très chastement. C'est-à-dire, voilà, exactement, ils ferment la porte, mais c'est vrai en plus. Hein. C'est-à-dire, ils ferment la porte, puis la porte se rouvre au bout de 8 heures, et ils sont fatigués et contents. Voilà, 8 heures, ouais, c'est la science-fiction.
On a bien dit que c'était des héros hein, dans la science-fiction.
Donc il y a ça, je dirais, bon, il y a les questionnements politiques, philosophiques. Moi, j'ai vraiment la dichotomie, elle est assez marquée, puisque en littérature adulte, entre guillemets, je vais me lâcher, c'est-à-dire je vais faire des choses avec des vraiment compliquées sur la réalité, sur enfin la nature de la réalité, sur la folie, sur des thématiques comme ça. Et donc on peut pas aller trop loin dans ces thématiques-là au niveau de la jeunesse. Il faut quand même ce qu'on disait, il faut qu'ils lisent le livre, quoi. Donc qu'ils tournent les pages. Donc il y a une vraie nécessité aussi d'efficacité narrative. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à un moment ils décrochent, qu'ils s'emmerdent, qu'ils ne comprennent pas, etc. Moi, j'adore susciter chez le lecteur adulte des émotions ou des sentiments qui ne sont pas forcément ce que va attendre le lecteur de Anna Gavalda, ou voilà, c'est-à-dire. Du vertige, de la perplexité, voire de la colère, voire même du rejet, c'est qui sont des options qui peuvent être assez suicidaires au niveau commercial, mais tant pis. Bon, en jeunesse, non, c'est en jeunesse, il faut d'abord raconter une histoire avec des personnages et après il y a un habillage. Bon, au niveau de l'écriture, voilà, ça va dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire que moi je fais de moins en moins de différences stylistiquement, c'est-à-dire que je fais pas énormément d'efforts. Quand j'écris pour la jeunesse au niveau du style, mais je prends la chose différemment, enfin je prends le problème à l'envers, c'est-à-dire je considère qu'il faut les tirer vers le haut, et ça c'est une bataille permanente avec pas tous les éditeurs mais certains que je nommerai pas, mais bon, il y en a par exemple qui vont vous dire, bah, en fait, si on met des mots trop compliqués, le gamin il va pas comprendre et il rejette ça. Bon. Moi, je me bats contre ça. Alors, c'est sûr que je perds des lecteurs dans la foulée, mais je pense que voilà, c'est aussi témoigner du respect au lecteur de 13-14 ans en lui disant, tu vois là, il y a des mots que tu connais pas, mais un, ça va pas t'empêcher de continuer à lire, et deux, je pense que tu es assez intelligent pour les chercher si vraiment ça t'intéresse. Ou alors, peut-être que tu vas comprendre intuitivement de quoi il est question. Par le contexte. C'est aussi comme ça que tu vas apprendre des nouveaux trucs, et pas seulement avec tes profs et tout. Donc, voilà, moi j'ai cette. Mais c'est vrai que quand je regarde les romans que j'ai écrits pour Autre Monde il y a 6-7 ans et ceux que j'écris maintenant, je dirais pas que j'ai grandi aussi avec le lecteur, mais j'écris maintenant plus des choses pour les 14-15 ans peut-être que pour les 11-12 ans. Cela dit, les habitudes de lecture changent aussi et j'ai l'impression qu'il y a un fossé qui se creuse entre ceux qui de toute façon ne lisent pas du tout et sont entre guillemets malheureusement un peu perdus pour la cause
et les lecteurs,
et notamment des lectrices. Et on se retrouve face à des jeunes stupéfiants, enfin, qui lisent beaucoup plus que moi à mon âge. Alors, je pense que le fait que les jeunes ne le lisent pas, on répète ça depuis 50 ans, mais moi je suis en salon du livre, je vends des bouquins de 700 pages et il y a des gamines de 10 ans qui arrivent, alors que dans mon esprit c'est à partir de 14-15 ans, et je leur dis, t'es sûr ? Elles me disent, oui, mais j'ai lu Les Royaumes du Nord et Harry Potter et machin, etc. Et tout ça en un week-end. Donc je dis, ok, ouais. D'accord. Voilà, pour moi, je considère les ados, pas comme des adultes, mais comme un lectorat intelligent, quoi, qui est capable de s'accrocher aussi, mais toujours avec. Et ça, c'était quand on a commencé chez Autre Monde, enfin, je pense que c'était un des chevaux de bataille de Denis Guyot, le directeur de collection. C'était vraiment de dire, là. Il faut qu'il y ait une simplicité quand même au niveau de la structure. Il faut que on lise les chapitres l'un après l'autre, enfin qu'on y aille, quoi, et qu'on soit pas paumé à aucun moment. Voilà, qu'on soit happé par l'histoire et le reste vient après. Après, quand on lit une histoire et qu'on est qu'on est conquis, qu'on veut savoir la suite, on est prêt à accepter beaucoup de choses.
Alors je rebondis sur ce que tu dis, parce que Loïc, j'ai lu une interview de toi pour je ne sais quel site,
merci,
où tu disais justement, tu comparais tes deux expériences, hein, avec ton livre pour jeunes ados et ton livre pour jeunes adultes, et tu disais justement que tu n'avais pas eu l'impression de simplifier ton style quand tu écrivais pour les jeunes ados, mais que par contre, dans « Je suis ta nuit », il y avait des tas de choses qui restaient inexpliquées ou en partie énigmatiques, alors que dans ton bouquin, zut, dont j'oublie le nom, « Marine des étoiles », c'est ça, tout était expliqué, tout avait sa place, tout avait une signification, et généralement, il y avait une interprétation et une seule.
Oui, c'est un peu la différence que je fais, moi, entre justement des lecteurs qui vont aller vers l'âge adulte et puis d'autres qui sont plus proches un peu de l'enfance, c'est l'ambiguïté. C'est-à-dire que je pense que plus on est adulte, plus on peut accepter l'ambiguïté, plus on peut accepter effectivement l'absence d'explication, de remplir soi-même les cases manquantes. On apprécie. Je me souviens quand j'avais 12 ans et que la fin se terminait de manière bizarre, je me disais c'est quoi, c'est nul, ça se termine en queue de poisson, il m'a pas expliqué, donc ça j'avais vraiment du mal. Et j'essaye de faire des histoires qui sont prévues, qui ont leur balise précise en ce qui concerne les jeunes adolescents, et puis de laisser beaucoup plus de portes ouvertes. Alors ça permet aussi d'ouvrir sur des thèmes qui sont justement qui portent bien à l'ambiguïté, hein. Ça peut être la mort, ça peut être la souffrance, des thèmes qui sont plus difficiles quand même à aborder à 12-13 ans. Les young adults se permettent, moi je suis très à l'aise en young adults parce que ça permet d'aborder ce genre de choses. J'étais aux États-Unis cet été et je voyais que les rayons young adults remplissent totalement dès l'ouverture toutes les librairies. Alors j'ai bon espoir que ça se développe quand même aussi.
Et on
sait très bien qu'il y a beaucoup d'adultes à lire aussi ces romans.
C'est littérature pour jeunesse, oui, tout à fait. Et alors Corinne, là tu es en train de préparer un livre jeunesse. Est-ce que tu as l'impression aussi soit d'aborder des thèmes qui sont différents, soit d'écrire différemment? Est-ce que tu abordes ce travail d'écriture différemment de tes séries pour adultes?
Au niveau de l'écriture, je me suis forcée effectivement à être plus simple, parce que dans J'aime, il peut y avoir 4 ou 5 intrigues en même temps, dans même un chapitre. Donc là, je me suis forcée à en faire que 2, sinon je pense que j'allais perdre du monde. Au niveau aussi de la construction des phrases, c'est vrai que j'ai peut-être tendance à faire de très longues phrases.
Un peu.
Et là, et il y en a une là-bas qui devrait m'approuver, c'est ma co-auteure, mais elle s'est planquée tout au fond, et qui me corrige sans arrêt dès qu'elle peut, dès qu'elle a le temps. Et là, je me suis forcée à faire des phrases plus simples, parce que je sais que je risque de perdre... Je pense à mes... C'est le prof qui intervient davantage dans l'écriture là de l'auteur que quand j'écris de la SF adulte. Là, je me lâche complètement. Je sais pas d'essayer de convaincre un de mes élèves. Là, j'essaye de partir dans ce projet à quelque chose où mes élèves soient capables de me lire jusqu'au bout. Alors, je suis partie de la base. Je suis partie de mes élèves de CAP. Est-ce qu'ils ouvriraient ce livre? Est-ce que je pourrais les intéresser? Parce que bien souvent, ils me demandent, Madame, on peut étudier vos livres en classe? J'arrive avec, alors le lendemain ou quasiment, j'arrive avec le pavé et là ils me regardent avec des yeux énormes, c'est trop gros. Oui, puis ils ouvrent, ils feuillettent, il y a plein de mots. Oui, ça commence à se compliquer. Donc là c'est pareil, je vais aussi me forcer.
Il n'y a pas d'image.
Il n'y a pas d'image. Si, sur la couverture, c'est déjà ça. Donc là je vais me forcer aussi à ne pas faire aussi long que J'aime, qui doit frôler les 3 millions de signes ou quelque chose dans ce goût-là. Donc du coup je travaille plus avec un synopsis que je ne le fais en littérature adulte. Parce que je me force à avoir des étapes et à avoir quelque chose d'un peu plus structuré plutôt que de partir et laisser les personnages en prendre beaucoup trop le large. Et là, ça peut m'embarquer très loin. Et là, je vais me forcer à faire, par exemple... en fait, j'ai 2 projets romans jeunesse. J'en ai un en fantasy, j'ai choisi la facilité. Et un autre en science-fiction, space-opéra, où ça sera un peu plus compliqué. Donc celui-là, je suis encore dans le travail de préparation, de recherche. Et là, je me suis dit, ça sera en maximum 2 livres. Parce que sinon, moi, c'est 3 à chaque fois. J'arrive pas à m'en sortir de ce 3. Et là, je me suis dit, c'est vraiment en 2 parties, mais il ne faut pas que j'aille au-delà, parce que sinon, je vais repartir dans mes travers.
Tu nous donnes un petit scoop au niveau du thème ?
Donc, celui de fantasy, ça va être sur le chamanisme. En fait, c'est l'année dernière, je suis allée à Paimpol. Je confonds toujours avec Paimpol. C'est grave pour une prof d'histoire.
Oui, dit Brocéliande, comme ça, tout le monde
voilà,
comprend.
Voilà, la forêt de Brocéliande, et je suis tombée amoureuse de la forêt de Brocéliande. Je me suis dit, j'y reviendrai.
C'est chez moi, ça.
C'est chez lui. Oui.
Alors j'y reviendrai.
Il cultive des menhirs.
Et donc je suis passée, c'est Jean Milman qui nous a emmené faire un tour, et là j'ai eu un flash, je me suis dit, je veux écrire quelque chose sur la forêt. Donc il y aura, un peu inspiré aussi de Princesse Mononoké, tout ce qui est les esprits de la forêt et la relation entre un jeune garçon et ses esprits. Donc là, ce sera pour le roman fantasy. Et celui de science-fiction space opéra, ce sera sur un vaisseau, enfin pas un vaisseau, une comète, et des gens qui se sont, une civilisation qui s'est développée à l'intérieur de cette comète, et un organisme qui s'est développé à l'intérieur de la comète, et qui sait qu'elle va mourir et qui cherche une solution pour sauver la civilisation qu'elle a abritée. Mmh. Elle fait appel aux humains, mais les humains vont essayer d'en profiter pour récupérer sa technologie, pour savoir comment elle s'est créée. Parce qu'un vaisseau organique ne tombe pas en panne comme un vaisseau mécanique. Mmh. Et donc, ils pensent les humains, là, seront les méchants et les extraterrestres seront les gentils pour un peu changer. Voilà.
Très bien, merci. Au niveau de la réception par alors, le fandom d'abord et puis le public de façon plus générale, est-ce qu'on est considéré différemment quand on est un auteur de SF jeunesse ou un auteur jeunesse de façon générale ou quand on est un auteur, on va dire... vrai pour adultes, tout ça. Loïc ?
Ça rejoint un peu ce que disait Corinne. Je crois qu'il y a une dimension quand même dans l'écriture jeunesse, c'est la nécessité d'aller vers une certaine humilité. Parce que le bling-bling, ça ne marche pas du tout. Il vaut mieux se ramener à des choses simples et effectivement à penser énormément au lecteur en se disant comment il va ressentir cela, comment il va prendre ses mots. Donc il faut aller à une certaine efficacité. Donc évidemment, hein, ça nécessite que les artifices soient mis un peu de côté. Tant pis pour nos grands rêves de style. En tous les cas, le but, ça va être plus de conter une histoire et d'apporter une histoire avec des thématiques solides. La réception par rapport au lecteur, ça dépend du lecteur évidemment. Hein. Pour les jeunes, c'est super, on écrit des trucs pour eux, donc vraiment. Pour les adultes, oui, tant qu'on n'a pas fait un bouquin adulte, pour certains, on n'est pas tout à fait auteur.
Fabrice, toi qui as la double casquette, tu le ressens ?
Déjà, il y a le milieu de la littérature jeunesse, il est très reposant parce qu'il n'existe pas globalement. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas d'utopial, on peut greffer des auteurs jeunesse.
Il n'y a pas d'utopial jeunesse.
Alors il y a des salons jeunesse où on se croise, on finit par connaître les gens, etc. Mais il n'y a pas réellement une communauté. C'est un milieu qui est très reposant parce qu'il n'y a pas de... Moi, je ressens pas, il n'y a pas de concurrence, on ne regarde pas trop ce que fait le voisin, on ne compare pas, il y a très peu de critiques. Il n'y a pas vraiment de site comme ActuSF ou le Cafard Cosmique où les gens parlent de mérite comparé de telle ou telle œuvre. Les deux milieux ne se chevauchent pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut faire un auteur jeunesse très connu qui se met à écrire à des adultes. Pour les adultes, les gens s'en foutent, ils ne le savent pas. Ouais, c'est un milieu qui rend humble parce que... Enfin, en même temps, c'est bizarre. C'est-à-dire que vous pouvez être auteur jeunesse et avoir au salon de Montreuil. Moi, j'ai des copains à qui ça arrive. On est obligé de mettre des barrières parce que les gens vont faire signer vraiment en masse ce qui arrive pas pour les adultes. Et malgré tout, ces gens-là sont pas du tout connus. Enfin, je veux dire, ils sont connus de leurs lecteurs, mais c'est tout. Et ça, vraiment, ça induit une humilité... de bonne aloi, quoi. C'est-à-dire que, et alors toi, tu vends combien ? Ah bah moi, 200 000. Ah bon, d'accord. Mais voilà, ça passe comme ça. Et puis bon, c'est pas une règle absolue. Je trouve que en littérature adulte, ce qu'on va sortir va être disséqué quand même par un fandom. Il y a des prix, machin. Et ça aussi, c'est une chose. Il y a les prix qui sont souvent donnés par une sorte d'establishment littéraire. Alors des critiques, des... il y a aussi des prix de lecteur, mais en jeunesse, il y a énormément de prix de lecteur. Par exemple, ça, c'est vraiment une autre façon de voir les choses. C'est bien, moi, je trouve, je suis assez content d'être sur les deux tableaux parce que je ne recherche pas du tout la même chose dans ces deux milieux. Et d'autre part, ils sont vraiment pas très poreux, quoi, je trouve. Alors qu'ils pourraient l'être, et on a vraiment un certain nombre de livres qui sont à la frontière entre... voilà. Mais vous pouvez être un auteur très reconnu en littérature jeunesse et vaguement connu en littérature adulte et inversement, quoi. Donc c'est vraiment deux cultures différentes, je dirais.
Corinne, tu ressens aussi cette moindre pression à préparer des bouquins jeunesse ?
Moi, pour l'instant, je ne suis pas encore rentrée dans le... Oui, je voudrais bien pousser la petite porte là, qui m'intéresse, parce que Fabrice vient de mettre le doigt sur tout ce qui, justement, fait que le monde de la jeunesse, de la littérature jeunesse, commence à m'attirer. J'entends de plus en plus ces sirènes. C'est effectivement, il y a l'humilité, le fait que... de toute façon, on va avoir tout de suite la réaction... d'adolescents qui vont pas être les mêmes que ceux qui vont aller chercher des trucs très compliqués sur les critiques où on se dit mince, ah bon j'avais écrit ça et c'est été interprété comme ça, je me suis dit pas du tout ce que j'avais l'intention de dire, et il y en a qui vont très loin dans l'interprétation et ou alors qui passent complètement à côté d'autres trucs que j'aurais bien voulu qu'ils comprennent et non, ils ont pas vu, bon bah tant pis. L'adolescent il va être tout de suite dans le, ça va être ou c'est tout bon, ou c'est tout mauvais. Donc, ou pareil, ou je réussis le pari, ou je me plante, et peut-être que je recommencerai après. Mais ça va être une réaction, je vais dire, plus saine.
Bah, le point qu'il faut préciser, excuse-moi, c'est, enfin, pour les gens qui ne le savent pas peut-être, c'est que quand on est auteur jeunesse, on est invité dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, de façon assez systématique. Et quand on commence à avoir une biographie importante, ça devient vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'on peut pratiquement ne faire que ça, que ce soit en plus, ce qui ne gâche rien, des interventions qui sont rémunérées, ce qui permettent aussi aux auteurs de pouvoir peut-être vivre plus facilement de l'écriture. Encore une fois, hein, ça n'arrive pas tout de suite, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe. Et donc, on a, ce qui est hyper important, je trouve, on a le discours du lectorat. Le lectorat, on vit avec, on le voit... quand on est sélectionné pour des prix, etc., on peut se faire 30 classes en 2 ou 3 mois. Et donc là, si on comprend ce que c'est qu'un ado, on sait ce qu'ils écoutent comme musique, on sait ce qu'ils regardent comme série, etc. On comprend comment ils fonctionnent, on voit ce qui leur plaît ou pas dans le bouquin. On a un retour qu'on n'a pas du tout en adulte, à part voilà, les quelques réactions sur des forums ou des gens qui vont vous écrire des fois qui sont gentils. Mais généralement, les gens ils parlent plutôt des trucs quand ils ont aimé. Alors que là, on se retrouve devant des élèves qui vont vous dire « j'ai détesté, je me suis emmerdé à mort », etc.
Et ce sont surtout les fans, je suppose, en adulte, enfin les gens du fandom qui
vont tout à fait. Ah bah oui, il y a une espèce de majorité silencieuse dont on ne saura jamais rien parce qu'elle ne s'exprime pas. Voilà. Et les gens, on ne les rencontre pas parce qu'ils ne viennent pas aux Utopiales. Ou tout ça.
Alors justement, parlant du...
Non, je disais où ils n'osent pas, parce que là, j'ai une lectrice qui m'a contactée il y a 2 jours en me disant « Vous êtes à Nantes, je peux venir vous voir ?» Oui, c'est possible. Et c'est vrai qu'il y a aussi le rapport... Ben moi, comme je suis enseignante, il y a aussi ce rapport-là qui me manque. Des réactions, j'espère pouvoir faire des interventions. D'ailleurs, là, j'avais fait exprès de me libérer une journée dans la semaine pour mes collègues de lycée professionnel, s'ils voulaient me faire venir, et ça commence à bouger de ce côté-là. C'est ce qu'on recherche aussi, c'est que le lecteur, il nous manque. Et j'espère que trouver ça en littérature jeunesse.
Alors justement, on parlait du fandom, des lecteurs, tout ça. On a évoqué à plusieurs reprises le fait que les fans de SF, mais les fans adultes de SF, lisent souvent les romans de littérature jeunesse. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, Loïc ? Est-ce que tu as souvent rencontré des fans adultes te disant qu'ils avaient aimé tes romans jeunesse ?
Oui, assez fréquemment. Ou des grands adolescents. Hein. Moi, j'imaginais pas des 17-18 ans, puis en fait, j'en vois assez souvent. Mais quand on réfléchit, on lisait aussi, nous, deux types de romans. On lisait encore parfois des bibliothèques vertes alors qu'on avait déjà un certain âge. Et puis, on lisait aussi des bouquins adultes qui étaient des pavés. Donc, c'est assez logique. Je crois que y a peut-être une liberté aussi en jeunesse. Hein. On va essayer de chercher des histoires qu'on aurait aimé, nous, peut-être trouver.
Quand on avait l'âge de les lire.
En tout cas, c'est ce que j'ai fait, moi, pour Marine des Étoiles. Je me disais, tiens, ça, j'aurais aimé le lire. Oui, ça, j'aurais aimé le trouver dans un bouquin. Et puis là, oh là là, ça, je vais l'enlever parce que c'est typiquement une réflexion de maintenant, je suis adulte. Et puis, donc, je pense qu'il y a ce ton, une certaine légèreté, des frontières qu'on enlève assez facilement, des barrières qu'on... Parce qu'on se dit, on va écrire ce qui nous plaît, en fait, et ce qui comme thématique, hein, je dis, qui aurait pu intéresser nous, quand on avait 14-15 ans. Et du coup, on a ces adultes qui s'y retrouvent aussi dans ces thématiques. Et puis, on a les mêmes passés aussi. Hein, on parlait de Star Wars tout à l'heure. On est aussi des auteurs qui très imprégnés de visuel, justement. Donc, des lecteurs adultes peuvent s'y retrouver... je pense aussi au Sang des Lions, là, où Je suis ta nuit, c'est-à-dire les 15-20. Oui. Bon, là, c'est un petit peu l'objectif, hein, puisqu'on peut rogner un petit peu sur les
adultes aussi. Hein.
Sur les adultes. Oui. Mais j'ai pu voir effectivement une différence, c'est que, on est un petit peu plus sérieux parce qu'il y a des adultes qui viennent par rapport aux autres.
Et Fabrice, tes lecteurs lisent tout de toi ou...
Enfin, ça devient difficile au bout d'un moment. Parce
oui, enfin bon.
Mais
il ne se limite pas à ta littérature
non,
destinée adulte.
Il y a le syndrome que j'appelle c'est pour mon fils, quoi. C'est-à-dire.
Faut bien surveiller les lectures de ses enfants. Voilà.
Donc ça, c'est assez délicieux. C'est les mamans quadragénaires, etc.
Oui, ça suffit avec les mamans quadragénaires, toi.
C'est pour voilà. Mais je vais le lire aussi parce que bon, quand on intervient dans les collèges, on est de toute façon on est lu par les professeurs. Et ça, c'est souvent très intéressant. Je pense que la collection Autre Monde a été conçue aussi dans cet esprit-là. C'est-à-dire que c'est aussi une initiation à la science-fiction très souvent pour les professeurs eux-mêmes qui se sont rendus compte que là ils avaient un outil assez fabuleux parce que pour une fois et moi combien de fois on me l'a dit et ça fait super plaisir c'est un tel il a jamais rien lu de sa vie votre bouquin c'est le premier qu'il arrive à terminer et donc ça c'est quand même assez sensationnel quoi. Mais souvent vous avez les profs aussi qui disent moi la science-fiction au début j'étais pas trop pour et en fait je connaissais pas mais je savais que j'aimais pas et, et là j'en ai lu et alors bizarrement donc c'est assez marrant quoi. On se retrouve face à des gens qui sont étonnés d'avoir aimé quoi. Limite ils s'excusent en disant mais je comprends pas.
C'est
en fait
c'est
bien quoi. Donc on leur dit bah voilà c'est bon. Et puis l'année prochaine ils vont continuer à inviter d'autres auteurs et tout. Et donc ça c'est super bien et je pense c'est vraiment une des réussites de cette collection là spécifiquement qui est quand même assez unique quoi dans son genre. Je sais pas trop s'il y a les mêmes choses à l'étranger mais c'est une collection de science-fiction et on l'a vu enfin avec tous les prix qui ont été récoltés en collège, etc., et qui est vraiment vachement implanté dans les CDI, etc., et qui représente aussi très souvent pour les enseignants le premier contact de leur vie avec la science-fiction. Quoi.
Mais même moi, je sais que quand j'essaye d'amener des amis ou des copains à lire de la science-fiction, c'est vrai que je leur propose souvent des bouquins de la collection Autre Monde.
Bah oui, parce qu'ils font 200 pages, et puis voilà, au moins, enfin voilà, c'est pas la peine de les mettre tout de suite avec un truc Art Science de 2000 pages. Parce que là,
c'est vrai que Greg Egan, pour commencer, c'est peut-être pas l'idéal.
C'est beaucoup demandé, quoi.
Voilà. Lecteur, ouais. Corinne, même chose, tu lis des romans jeunesse ?
Moi, je passe allègrement de Olympos à Au Chevalier d'Émeraude. Je reviens, je suis avec Le Loup de Deb en ce moment. L'auteur me pardonnera, j'espère, j'ai zappé son nom.
Nicolas Jarry.
Merci. Ensuite, je vais repasser à La Chronique des Tours, il me semble.
Oui.
Donc, je passe allègrement de l'un à l'autre, ça, il n'y a pas de souci. Quand il y en a un que... Moi, je vais faire un peu comme mes élèves, je vais flasher aussi sur la couverture. Encore une fois, je me dis qu'il y a... Heureusement qu'ils ont des super illustrateurs, parce que ça flash. Et comme je vais souvent traîner chez Alain Douilly, la librairie Tatailleur à Creil, que je vois toutes ces couvertures, je suis comme, c'est Noël.
Ouais, c'est vrai.
Et ça fait plusieurs fois que... En plus, il doit me sentir venir, parce qu'il me met sous le nez toujours la couverture qui va me faire flasher. Et ça va être... lui, il m'a dit, tiens, Le Loup de Deb, c'est un sacré nom de je sais pas quoi, qui m'a dit, tu le lis. Et il m'a dit, celui-là, je viens de le finir, tu le lis aussi. Donc c'est vraiment super d'avoir comme ça un libraire qui commence à connaître mes goûts et qui va me sortir le bouquin que je veux lire en ce moment. Et ça, c'est... Mais pour revenir aussi sur les collègues professeurs là, qui ils vont parfois reculons. Tu pourrais pas me passer le livre que tu es en train de lire là en ce moment ? Monsieur, pas de souci. Et puis il y a ma fille là, le Chevalier d'Émeraude, elle aime bien ça. Ah, tu sais, je l'ai lu finalement. Ça m'étonne. Ou alors, les autres mondes là, t'en as encore combien ? C'est vrai qu'il fonctionne vraiment très bien, cela.
Ça fonctionne très bien.
Et alors, j'ai un collègue qui s'est essayé tout seul dans son coin, il aurait dû m'en parler, parce qu'il a essayé La Planète des Singes. Il en a perdu beaucoup.
Oui. Oui.
Madame, on n'a rien compris au film.
Oui.
Ni au livre. Ah. Donc là, j'ai promis l'année prochaine, parce que l'on va faire un plan de formation. Oui, je vais faire une journée de formation pour vous. Faites autre chose que La Planète des Singes, parce que c'est pas possible.
2001.
Mmh. 2001, oui, c'est ça, la séquence où le vaisseau arrive sur la station, là, voilà. Ils ronflent, hein. Ils sont sur le sac, couchés, et puis il n'y a plus personne, hein, c'est pas la peine.
Non, c'est sûr.
Non, mais là, moi, je suis en train de faire les villes dans la science-fiction, donc j'ai pris Le Cinquième Élément, j'ai pris Métropolis, j'ai osé.
Mmh.
Pas trop longtemps.
Ça passe bien, Métropolis.
Oui. J'ai pris Le Cinquième Élément. Ah, ils l'ont déjà vu à la télé, celui-là. Et je leur ai fait regarder en entier Blade Runner. Merci, mon Dieu, je suis tombée sur une classe là, cette année. Et donc, à chaque fois, c'était comparé l'espace urbain dans ces différents films. Et après, ils avaient des questions. Mais là, je suis tombée sur une classe de première bac pro exceptionnelle. Ils ont des questions à la fin. C'est rien de plus terrible que d'étudier un roman, de s'enquiquiner.
Et de faire un bide absolument magistral.
Et à la fin, vous avez des questions? Non. Mais les profs sont comme ça quand on fait des formations. Vous avez des questions? Non.
Ah oui, okay. C'est pas réservé aux élèves, hein, c'est sûr. Bien, nous avons atteint presque la fin de la séance, donc on va voir s'il y a des questions peut-être dans le public. Oui, je vais.
Merci. Moi, je voudrais savoir s'il y a une écriture spécifique pour la jeunesse. Enfin, bon, moi je suis traductrice, hein, donc ça m'intéresse au niveau de l'écriture. Entre un roman pour adulte et un roman pour enfant, est-ce qu'il y a vraiment une différence d'écriture ou pas, vous trouvez, dans la complexité, par exemple, de la langue ou le vocabulaire ou...
Moi, en ce qui concerne la complexité de la langue, moi, je suis assez d'accord avec Fabrice. Les mots employés, le vocabulaire, je le varie pas vraiment en fonction de l'âge. Par contre, oui, c'est plutôt sur les thématiques. Et puis, bon, évidemment, sur la longueur des phrases, ce genre de choses, il faut que le rythme d'écriture soit quand même assez dynamique. Comme disait Fabrice, il faut que le lecteur tourne les pages assez vite, forcément. Hein.
Est-ce que ça doit être plus concret, par exemple? C'est
une question que je me moins pose, ambigu, moi, c'est ce que je traduisais ça tout à l'heure. C'est moins de... Il faut qu'il y ait un sens, une flèche précise, à mon avis. Hein,
Les lecteurs veulent savoir à la fin, ça les angoisse beaucoup, les devenirs des personnages. Par exemple, si on n'a pas dit si on l'a laissé dans une situation entre la vie et la mort, il faut vraiment qu'ils sachent, quoi. Mais là, on n'est plus dans l'écriture spécifiquement, hein, c'est dans la narration elle-même, quoi. Dans l'écriture, moi, je me pose pas trop de questions quand j'écris pour la jeunesse, c'est plutôt quand j'écris pour les adultes que je vais peut-être hisser mon niveau de vocabulaire ou complexifier mes phrases. Mais sinon, il faut quand même faire confiance à... Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si l'histoire est coule de source et entraînante, etc. Moi, c'est mes souvenirs de lecture que j'avais quand j'avais 14-15 ans. Je lisais des choses comme Lovecraft, etc. C'était pas forcément hyper évident stylistiquement, mais si on est complètement pris dans l'ambiance, bah, c'est aussi comme ça qu'on apprend à lire et qu'on apprend à lire des livres plus difficiles. Il faut bien à un moment franchir des étapes aussi. Et moi, je me méfie beaucoup des éditeurs qui veulent niveler par le bas en disant... Mais il faut qu'on leur mette, parce qu'on peut les abrutir aussi complètement et utiliser un vocabulaire de 50 mots, et au moins on est sûr que tout le monde comprendra. Mais je ne vois pas bien à quoi ça sert, quoi, sinon à remplir un cahier des charges minimaliste. Bon, moi, je ne suis pas trop dans cet état d'esprit, quoi.
Je retranche pas mal, moi, une fois que j'ai écrit. Je coupe pas mal, mais je coupe pas forcément le plus simple, le plus compliqué, en gardant le vocabulaire le plus simple. Je coupe surtout ce qui peut être des préoccupations vraiment d'adultes, en fait, des descriptions qui sont un peu alambiquées parce que ça m'a fait plaisir de le faire. Et donc voilà,
il y a quand même, j'ajouterais, il y a peut-être aussi il y a moins de subjectivité peut-être aussi dans les romans jeunesse, c'est-à-dire que les personnages sont pas toujours en train de se demander ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Ce qu'on peut avoir en littérature blanche, on peut vraiment avoir des romans notamment sans dialogue. Ça, c'est un truc qui est assez difficile en jeunesse, il y a quand même beaucoup plus de dialogue, et on est peut-être moins dans l'introspection, on est peut-être quand même plus dans l'action. Alors, il y a évidemment des sentiments, des émotions, mais ils sont... On laisse en fait au lecteur le choix. Enfin, c'est le lecteur qui fait le travail là et qui dit bah machin, il doit être triste parce que son copain est mort, mais on n'est pas obligé d'écrire 50 pages sur le fait que machin est triste, quoi. Voilà. Parce que ça peut avoir un intérêt que si c'est valorisé de façon littéraire, et on va pas faire ça en jeunesse.
Bien, on va prendre une autre question.
Alors moi, c'est une question toute simple. Qu'est-ce que vous conseilleriez comme auteur ou comme texte en SF francophone? Jeunesse, ces 10 dernières années, les textes vraiment qui vous ont... Oui, alors je pense bien, moi je connais pas très bien, et puis j'aimerais acheter 4 ou 5 bouquins de littérature jeunesse.
Je dirais Christophe Lambert avec Petit Frère, par exemple.
Daniel Martinigol.
Bah, Christophe Lambert, il est là en plus, donc ça a l'avantage, enfin en tout cas il est sur les... Voilà.
Petit Frère et La Loi du Plus Beau. Non.
la plupart des titres de la collection Autre Monde.
Ouais. Oui, Autre wow. Monde, vraiment. C'est
vrai. Non, mais c'est pas pour faire de la retape. Mais
c'est
désolée,
vrai que... Denis, mais c'est vrai.
Oui. Alors, comme Denis est là, on va dire qu'il y a aussi une collection...
15-20.
15-20, et ouais. Chez Syros, donc une nouvelle collection de science-fiction, il y en a deux maintenant, principales, qui est Soon, donc, une collection qui vient d'être montée.
Une autre question peut-être, et puis on s'arrête à deux questions, parce que sinon on va déborder. Alors, on va commencer par les dames.
Merci. Oui, moi j'aimerais savoir, est-ce que dans les critères, donc on en parlait tout à l'heure, littérature jeunesse, est-ce que c'est tout simplement pas l'âge du héros, que les 15-20 ans, ils sont des héros 15-20 ans, et etc. Enfin, ce qui ne correspond pas vraiment, j'ai l'impression, plus à la lecture, puisque dans les lecteurs de Tolkien, il y a pas mal d'adolescents. Or, si je vois bien Tolkien, il n'y a pas vraiment d'adolescents dans l'histoire.
Bonne question, compliquée. En tout cas, la plupart des succès des dernières années, quand même, alors peut-être plus en fantasy qu'en science-fiction pour le coup, c'est quand même des héros qui ont 14, 15, 16 ans. Et il y a une espèce de... Je ne parlerai pas d'autocensure, mais on a tendance assez naturellement à choisir ce genre de héros-là, ce qui parfois pose des problèmes... pratique d'intrigue, c'est-à-dire que dans un monde de fantasy, ça peut aller parce qu'on peut considérer qu'un garçon, par exemple, est autonome à 15-16 ans. Des fois, c'est un peu plus difficile, mais c'est en rien une obligation. Moi, j'ai l'impression que ça plaît plus, mais finalement, il n'y a pas grand monde qui a essayé autre chose. Moi, je vais écrire un roman policier en pas longtemps avec une héroïne qui a 90 ans, qui est dans un fauteuil roulant, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais je suis pas certain que ça va être un énorme succès, quoi. Mais juste, voilà, je sais pas.
Non, c'est pas facile à effectivement à cerner. Dans Je suis ta nuit, là, qui est paru en mars dernier, donc est destiné plutôt à des young adults hein, de 15-20 ans. Les héros ont une douzaine d'années, hein, puisque ce sont des enfants. Et c'est vrai que on ne sait pas comment un 15-20 peut recevoir cette histoire. Bon, ça marche pas trop mal aussi parce que ces héros trouvent un cadavre. Hein, donc le cadavre lié aux enfants, ça attire quand même. Donc alors, ça dépend du contexte.
On va prendre une dernière question parce que sinon on va vraiment trop déborder et se faire lyncher par les suivants.
Oui, je voulais savoir si sur de la littérature jeunesse, vous pouvez facilement casser le moule gentil-méchant. Ou est-ce que c'est une règle du style ? J'ai tendance à pas lire littérature jeunesse en ayant peur de toujours tomber sur il y a les gentils et les méchants ou des méchants qui finalement l'étaient pas et qui peut-être méritent d'être un peu plus étudiés que simplement pris comme des méchants comme ça. Ou est-ce que c'est un a priori stupide que j'ai plutôt intérêt à les casser?
On va pas dire a priori stupide, non, quand même. Moi, bah, par exemple, le space opéra que je veux faire, je veux que ce soit les humains qui soient les méchants et les extraterrestres, entre guillemets, les gentils. Mais il y a d'autres romans où les personnages sont ambigus et plus intéressants. Bah, je vais revenir au Chevalier d'Émeraude où l'héroïne, est, à son apparence, on ne la prendrait pas pour... c'est un monstre. Et on a une ribambelle, alors moi je les appelle des chevaliers rock'n'roll parce qu'ils sont un peu ce côté-là, un peu olé olé, je veux dire. Ils sont un peu très rockstar, mais dans le lot, c'est... au début, le premier tome, je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque? Et puis, Anne Robillard a réussi à fouiller ses personnages, et il y a des chevaliers qui sont en train de basculer, j'ai envie de dire du côté obscur, qui sont en train de basculer vers le méchant, et qui en même temps ont des justifications dans leur action qui sont assez intéressantes. Donc, c'est pas si blanc, noir,
c'est
etc.
C'est pas si manichéen que ça.
Bien. Les plus intéressants, c'est les méchants séduisants, comme Long John Silver, par exemple, ou d'autres. Hein,
par exemple.
Moi, j'adore ces méchants-là. Mais c'est vrai, non, mais il faut reconnaître que plus l'âge du lecteur est jeune, plus les méchants et les gentils seront identifiés et rarement
bien,
mêlés.
Bien identifiés. Bien, mais écoutez, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. On va laisser la place au suivant. Merci beaucoup. Bonnes utopiales.